65 ans de l'indépendance de la RDC.
Radio Maria organise un plateau spécial sous le thème
Bilan et perspectives, rôle et apport des cadres et dirigeants catholiques.
Invité
Abbé recteur Léonard Saint-Eddy,
Père recteur Macaire Manimba,
Professeur Mathieu Moussois,
Professeur Jacques Njoli,
Professeur Paul Gaspard Ngondankoy,
Professeur Théophile Mbemba,
Professeur Faustin Kwakwa,
Professeur Odilon Gamela,
Professeur Mokonda Bonza,
Docteur Matusila,
Monsieur Simon Bosso,
Monsieur Yassat Djogolo
et Monsieur Benoît Janvier Capia.
Émission spéciale à suivre sur la 89.9 MHz et sur www.radiomaria.cv.
Laissez nous vos messages au plus 243 81 99 66 098 081 99 66 098.
Vive l'indépendance de la RDC avec Radio Maria.
Radio Maria, votre radio, notre radio. Vous allez commander
Radio Maria,
Radio Yayo,
Radio Yana,
Radio Yaiso ensemble.
Voilà, fidèle auditeur, auditrice de la fréquence maternelle, bonjour à vous tous et bonne fête de l'indépendance à tous ceux qui êtes branchés sur la fréquence maternelle. Nous célébrons le 65 ans de l'indépendance de notre pays et à cette occasion, Radio Maria organise donc cette émission spéciale 65 ans de l'indépendance. Bonjour Maxime.
Bonjour Régine, bonjour aux uns aux autres et merci de nous rejoindre pour ces plateaux spéciaux en ce jour de l'indépendance. C'était un jeudi, le jour où on avait l'indépendance, 65 ans après, ça change un peu de jour, selon que les années aussi avancent, selon qu'on est dans telle année ou telle autre année, n'est-ce pas, Madame Régine?
Alors, comme je le disais, nous avons dans ces plateaux bien nourris des invités et nous avons donc le professeur Mokonda qui est avec nous. Bonjour, professeur.
Bonjour, madame.
Professeur Kwakwa Faustin, bonjour.
Bonjour madame, bonjour à tous ceux qui nous suivent.
Professeur Mathieu Moussois, bonjour.
Bonjour,
Abbé.
Mes chères sœurs et frères, bonjour à tous les Congolais.
Papa Simon Bosso, nous vous saluons.
Bonjour, maman Régine, bonjour Max, et bonjour à tous nos auditeurs, auditrices et internautes.
Bonjour au professeur Théophile Mbemba.
Bonjour, maman Régine, bonjour Maxime, bonjour à tous les invités à cette émission. Et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Maman Maria.
Monsieur Yassine Djogolo, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Maman Régine, bonjour Maxime, bonjour à tous les invités.
Bienvenue à tous à cette émission spéciale 65 ans de l'indépendance.
Voilà, bienvenue donc à cette émission. Il faudra dire que nos invités sont répartis donc en panel. Nous aurons donc 4 panels qui vont vous accompagner en ces 30 juin 2025. Nous avons les panels historiques représentés déjà dans ce studio par le professeur Mokonda. Nous aurons en ligne, si pas par message sonore, les pères Macaire Manimba, que vous connaissez très bien sur les zones mariales, qui va intervenir aussi pour les panels historiques. Nous aurons aussi les panels politiques avec l'abbé Mathieu Moussois, que vous avez présenté d'ailleurs. Nous avons aussi le professeur Kwakwa qui sera donc dans ces panels politiques et sans ignorer aussi les panels économie et infrastructure représentés déjà dans ce studio par papa Simon Bosso et papa Yacinthe Djogolo. Et enfin, le panel socio-culturel. Nous avons déjà dans ces studios le professeur Théophile Mbemba et en route le professeur Léonard Saint-Eddy. Nous aurons aussi un élément sonore en direct par Mama Daina Mayenga qui a travaillé au niveau du Bureau international du travail et représentation de l'Afrique. Il a été directrice adjointe. Il va parler de l'emploi. Et dans ces débats, comme vous l'avez dit, Madame Régine, on va tenter de faire les bilans et les perspectives perspective de notre pays.
Oui, Maxime. Alors, ensemble avec nos invités, chers auditeurs de Radio Maria, nous allons donc faire le bilan des 65 ans, comme je disais, de l'indépendance de notre pays, analyser les défis auxquels la nation a été confrontée, envisager également les perspectives d'avenir.
Alors, si nous arrivons chez vous, c'est grâce au concours des Josué Kongolo et de Gaylor Kamangou. Et derrière donc ces deux personnes citées, il y a toute une équipe que vous aurez donc à découvrir à la fin de cette émission. Alors, Madame Régine, on va parler des règles des jeux pour cette émission. Parce que recevoir de la crème des crèmes dans nos studios, il faut qu'il y ait des règles du jeu.
Tout à fait. Et avant de rappeler les règles du jeu, nous remercions également le directeur de Radio Maria qui a permis à ce que nous puissions donc réaliser cette émission. Concernant donc les règles des jeux, nous dirons que la prise de parole sera chronométrée dans un premier temps 5 minutes selon les panels. Voilà.
Oui, 5 minutes chronométrées. Donc on va passer d'un panel à un autre. On va commencer par les panels historiques pour enfin finir par les panels socio-culturels en passant par les panels politico-judiciaire, si vous voulez bien, et les panels économico-infrastructure. Et c'est tous ces panels qui seront donc mis sur notre table pour bilanter et voir les 100 ans à venir, comment sera notre pays, la République du Congo.
Alors, avant de lancer, Maxime, est-ce qu'en 60, vous étiez déjà né?
Non, je n'étais pas encore né. Je crois que peut-être j'étais dans un projet.
Alors, on peut nous mettre dans l'ambiance de 1960, un jeudi, ceux qui ont vécu.
Oui, ceux qui ont vécu ces années-là, nous invités.
Avant d'ouvrir.
Vous vous souvenez encore? Qu'est-ce qu'on vous a raconté de ce jour-là? Vous avez la parole qui peut prendre avant qu'on puisse entrer dans les panels, qui peut se souvenir. Oui, honorable Mokonda.
Moi, j'avais 12 ans. Je venais d'obtenir mon certificat de l'école primaire à Bouta, où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai étudié. Et comme vous avez dit, je me rappelle que ce fut un jeudi. Mais avant cela, c'était d'abord le mois de mai, les élections, la campagne électorale, et ainsi de suite. Et je me rappelle de la propagande un peu démagogique des années 60. On était des adolescents, on ne comprenait pas grand-chose. Parce qu'on disait, voilà, on va obtenir l'indépendance, on va plus défricher les champs, ce sont les tracteurs qui vont venir travailler, tous vos parents qui étaient morts seront ressuscités, vous ne payerez plus d'impôts, et ainsi de suite, vous n'irez plus en prison. Voilà plus ou moins un peu l'atmosphère de la campagne électorale. Et puis le 30 juin, c'était la fête pendant 4 jours. Le 30, le 1er, le 2 et le 3, c'était la fête.
Et comment vous avez reçu les messages? C'était à côté de votre poste récepteur ou comment?
Non. En ce moment-là, et en 1960, ce n'est pas tout le monde qui avait un poste récepteur.
Tout à fait.
Donc je n'ai pas suivi ni les discours de Lumumba, ni du roi, ni de Kasavubu. Ça, je le saurai beaucoup plus tard. Oui. Mais on avait seulement organisé des festivités pour dire qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous sommes libres. On n'est plus sous l'esclavage.
Alors, des anecdotes, professeur Théophile, professeur Mathieu Mousseau.
J'avais 8 ans, j'étais en deuxième primaire, c'était dans la ville de Kingé. Et comme pour bien le dire, nous suivions cela. On ne comprenait pas grand-chose, il faut avouer, mais on voyait les événements. On a vu le prêtre blanc, le commerçant blanc qui était là, commencer à partir. Et puis, bon, on disait que les choses vont changer. Et ce jour-là, effectivement, c'était la grande fête au niveau de toute la ville. Donc, je ne veux pas ajouter plus que ça. Voilà, vécu au Mont Franc.
Voilà, une autre anecdote, professeur Mathieu, professeur Abbé Mathieu Moussoir. Comment vous avez vécu ces moments-là et comment on vous l'a raconté aussi, peut-être?
Merci. J'ai commencé aussi l'école primaire. J'étais à l'école primaire. Et c'était en deuxième année, je crois, deuxième année primaire, à ce moment-là. Et c'était la grande fête. Je me souviens que la veille, le soir, la nuit, on chantait, on dansait ici à Kinshasa. J'étais ici à Kinshasa. On chantait, on dansait. Et ce que nous avons surtout retenu, c'est le défilé. Bon, il y a eu des discours. Mais à cet âge-là, on ne comprenait rien dans ces discours. Mais plus tard, après là, c'était le 30 juin, mais un an, deux ans après, on va commencer à déchanter. Ça va être la désillusion quand nous verrons que nos parents vont commencer de plus en plus à regretter la belle époque où le salaire arrivait à point nommé, etc. Bon. Mais au moins le 30 juin, c'était la fête. On ne pensait qu'à cela. Kimpwanza.
Voilà, on ne pensait qu'à cela, Madame Régine.
Dimension festive hein, à cette époque-là, jusque-là. Alors, papa Hyacinthe.
Je n'ai pas grand-chose parce que j'avais 2 ans, donc je ne saurais rien dire.
Mais qu'est-ce qu'on vous a raconté de ce jour-là, lorsque vous avez eu peut-être raison de connaître les choses?
Bon, on m'a raconté, mais maintenant je passe mon temps libre sur YouTube à voir les événements de 1960. Donc je ne peux rapporter que ce que je vois.
Tout à fait.
Monsieur Simon Bosso.
Bien, moi j'avais 11 ans à Kinshasa, j'étais, je crois, en 4e ou 5e primaire. Bon, nous, c'était à partir de 59, quand il y a eu les événements
du
4 janvier 59, il y a eu déjà cette dynamique avec l'Abaco, des événements qui s'en sont suivis. Il y a eu les pillages des magasins en ville, ici à Foncobel, qu'il y a eu aussi, il y a eu des tueries. Et on a été, à ce moment-là, nos parents, moi, mon père est militaire aussi dans l'Abaco et on parlait tout le temps de Kimpwanza, de l'indépendance. Et l'indépendance allait nous permettre de devenir comme les Blancs. Et en 60, avec l'arrivée du roi Baudouin, on a vu dans les images Buona Kitoko, comme on l'appelait. Vraiment, on s'attendait à tout savoir la situation qui, il faut dire que déjà à l'époque, nous comme enfants, à Kinshasa, même avec des parents ouvriers, on avait une situation qui était assez confortable. On allait à l'école bien habillé, avec des moniteurs qu'on appelait messieurs, qui étaient bien propres, avec des bus électriques qu'il y avait à Kinshasa en 60. On ne pouvait pas s'imaginer qu'aujourd'hui, on est régressé ici à Pont-Cabu, il y avait une station de...
On va en parler, papa Simon, c'est pour ça qu'on vous a invité pour nous rafraîchir un peu la mémoire. Professeur Kwakwa, vous...
Bon, moi je n'ai rien à dire là-dessus, je ne suis qu'un enfant de l'indépendance, donc je suis né la même année.
Mais pourtant vous avez un livre à votre actif qui retrace les 65 ans.
Sur base de ce que nous avons comme récit, à partir de l'indépendance et ce que nous avons vécu et ce que nous voyons. Donc, je suis né en 1960. Le 30 juin, je n'avais que 3 mois. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce qui s'est passé ces jours-là.
Alors, sans plus tarder, on va passer au bilan. Donc, on va donner la parole au professeur Mokonda sur le plan historique.
Merci beaucoup. Le 30 juin 1960, c'est l'indépendance, c'est la fête, c'est la politique. Mais en fait, la politique a véritablement commencé, les chrétiens catholiques qui se sont intéressés, qui ont été plus tard des acteurs politiques, c'est d'abord en 1956, autour de l'abbé Maroula, quand en 1955, le professeur belge Van Bilsen, qui était professeur à l'université d'Anvers, publie un ouvrage dans lequel il dit que le Congo pourrait devenir indépendant en 1985. Nous sommes donc en 55, donc il faut 30 ans. Pourquoi il fallait 30 ans pour que le Congo devienne indépendant? Tout simplement parce que les Belges n'avaient pas formé de cadre. Les gens n'étaient pas préparés pour pouvoir assumer les responsabilités d'un État moderne. Et donc, le professeur Van Bilsen a pensé qu'il faut qu'on se donne 30 ans pour préparer les Congolais. Et c'est alors que les évolués congolais catholiques, autour de l'abbé Maloula, qui deviendra plus tard évêque et archevêque et notre cardinal, vont réagir en écrivant le manifeste de la conscience africaine. Ça, c'est le premier acte politique et historique où on voit des Congolais qui réagissent. Il y a eu aussi Kasavubu à l'époque, dans le cadre de l'Abaco, qui lui va réagir également en 1956, mais dans le cadre de l'Abaco. C'est à partir de 1958 que les partis politiques se créent. sur les cendres des associations culturelles qui existaient au Congo, parce que les Belges, comme il n'y avait pas de parti politique, avaient seulement permis aux Congolais de se regrouper, des Congolais qui viennent du même coin dans des associations culturelles. Donc les Congolais ne sont pas préparés pour assumer les responsabilités chef de l'État, premier ministre, ministre, parce qu'en 1960, il n'y avait même pas d'administrateur de territoire congolais. Il n'y avait pas. On venait à peine de nommer les premiers adjudants congolais au niveau de l'armée. Et voilà qu'on accède à l'indépendance en 1960. Mais il faut citer quand même quelques noms parmi les chrétiens catholiques congolais qui ont joué un rôle majeur à côté de l'abbé Malula. C'est comme Papa Ileo, c'est comme Kalonji, Ngalula. Et plus tard, ces gens-là vont se retrouver dans un parti politique, le Mouvement National Congolais, dont la présidence, je ne sais pas comment, fut attribuée à Lumumba, qui lui habitait Kisangani, qui venait d'arriver à Kinshasa justement les années 56. Mais dès qu'on accède à l'indépendance, vous le savez, il y a eu la mutinerie, déjà à partir du 4 ou 5 juillet, la mutinerie de la force publique, parce que le général Yansien avait commis l'imprudence. En fait, il voulait dire que l'armée doit continuer à être disciplinée. Il a écrit sur un tableau au camp Kokolo, camp Léopold à l'époque, « Avant indépendance est égal après indépendance ». En fait, dans sa tête, c'est pour dire que l'armée doit continuer à rester disciplinée. Mais les Congolais ont mal compris, les soldats congolais, en disant « Mais tiens, nos compatriotes avec qui nous étions tous sous la colonisation belge, et ils deviennent des ministres, ils deviennent des députés, ils vont habiter les maisons des Blancs, ils ont des voitures, mais nous, on va continuer à rester des caporaux, des sergents ». Et il y a eu mutinerie. Cette mutinerie a donc entraîné énormément de problèmes, d'où la nomination, Lumumba va nommer Lundula comme commandant-chef de l'armée et Mobutu comme colonel. Mais les catholiques congolais se retrouveront donc au sein du gouvernement, au sein du parlement, au sein de l'armée, parce que ce sont les catholiques qui ont formé l'élite dès l'époque. Ce sont les écoles catholiques. L'école protestante, il y en avait, mais les protestants n'avaient pas encore formé autant de cadres que chez les catholiques. Donc, on peut dire que toute l'élite politique congolaise en 1960, en grande partie, a été formée dans les écoles catholiques. J'ai été plusieurs années plus tard au gouvernement. Parce qu'on pose souvent la question, mais pourquoi les catholiques, quand ils se retrouvent au gouvernement, quand ils se retrouvent en politique, ils posent des actes qu'ils n'auraient pas dû poser. Moi, je me dis que les catholiques qui allaient au Parlement, qui allaient au gouvernement ou dans d'autres instances politiques, ils étaient pratiquement abandonnés un peu à eux-mêmes. Vous voyez l'ambiance de 1960 où les gens devaient avoir de l'argent et il y avait aussi la corruption parce que les Belges avaient aussi, ce sont les Belges et des étrangers qui ont financé les partis politiques lors de la campagne de 1960. Et les gens avaient besoin d'argent, la politique a besoin d'argent. Et les gens qui arrivent, ils ont besoin d'argent. Donc en ce moment-là, très peu de gens ne pensent à la morale. Parce qu'on dit en politique, il n'y a pas de, morale. Mais de l'autre côté, on a remarqué également que l'Église elle-même n'encadrait pas suffisamment ou n'encadrait pas du tout ses anciens élèves qui l'a formé, non seulement intellectuellement, mais aussi moralement, religieusement, et ainsi de suite, qui sont en politique. Ils étaient abandonnés à eux-mêmes. Et on verra d'ailleurs beaucoup plus tard que c'est le cardinal Etsu, au début des années 2000, qui va tenter une expérience de mettre ensemble les acteurs politiques, les acteurs économiques, les acteurs sociaux dans le cadre d'un mouvement pour qu'ils soient encadrés par l'Église. Et ça, la création de l'apostolat des dirigeants et cadre entrepreneur catholique. Ça, c'est les années 2001 exactement. Mais avant ça, il y avait des organisations des anciens élèves. Vous avez par exemple les anciens élèves de Peur des Scutes, à Dapes, les anciens élèves de Frères des Écoles Chrétiennes, à Sanef, les anciens élèves de Frères Maristes, Unelma. Moi-même, je suis un ancien élève de Frères Maristes, Unelma. Mais ces associations-là n'encadraient pas leurs membres qui étaient en politique. Ce sont des associations qui se retrouvaient pour certaines circonstances d'entraide et ainsi de suite, et qui étaient aussi eux-mêmes accompagnés soit par les pères ou soit par les frères. Il faut dire qu'à partir de la libéralisation politique qui est intervenue en 90, c'est la première fois que des hommes politiques se mettent ensemble pour créer une formation politique d'obédience chrétienne. C'était la première fois où on a vu, en 1990, Papa Iléo, avec d'autres, Bobolico et d'autres encore, et des plus jeunes aussi, qui créent le Parti démocrate et social chrétien, le PDSC. Mais malheureusement, au fil des temps, le PDSC lui-même s'est divisé. Il y a eu, je crois, si mes souvenirs sont bons, peut-être 2, 3 ou 4 L de PDSC. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. En 2005, la fondation Konrad Adenauer réunit un certain nombre de partis politiques d'obédience chrétienne. Si je peux citer au passage quelques noms, il y avait Papa Bobolico, il y avait Singa Ujou, il y avait Kiakwama, il y avait encore Mbenza Toubi, et moi-même j'étais parmi, il y avait Tabiana. Nous étions à peu près 10 partis politiques, et ils nous disent, mais vous devez vous mettre ensemble. En fait, l'idée c'était de recréer une grande formation politique d'obédience chrétienne comme était le PDSC en 90. Et qu'à ce moment-là, la plupart de grands partis chrétiens en Europe qui voyaient un nouveau mouvement chrétien au Congo et qui soutenaient le PDSC. Nous sommes allés à Matadi, nous sommes en 2005, on crée une plateforme en prévision des élections, une plateforme qu'on a appelée la Convention des démocrates chrétiens. C'était la joie pour tout le monde. Mais dès que nous rentrons à Kinshasa, 3 partis quittent la plateforme. Et puis, 7 se mettent au travail. Et quand on arrive aux élections, il y a des scissions. Parce que pour faire la politique, il faut de l'argent. Et pour aller en campagne, il faut de l'argent. Les gens posent la question, est-ce qu'il y a de l'argent? Est-ce que les Allemands nous donnent de l'argent? Non. Alors, chacun va derrière la personne qui peut lui donner des moyens. Donc, difficile de pouvoir, comment dirais-je, promouvoir une formation politique à idéal chrétien où les gens sont là parce qu'ils ont un idéal, parce qu'ils veulent travailler pour leur pays. Et là aussi, la CDC n'a pas évolué pendant un certain temps. La plateforme est devenue parti politique. Et le parti politique, ça a fonctionné pendant quelques temps. Mais aussi, il y a eu séparation. À l'Assemblée nationale, tout a été fait pour essayer de regrouper tous les partis politiques d'obédience chrétienne. Les gens suivaient ceux auprès de qui ils pouvaient facilement devenir ministres. Et surtout, au Congo, les gens n'aiment pas beaucoup rester dans l'opposition. Parce que quand vous restez dans l'opposition, vous n'avez rien. Vous devez aller du côté de là, comme on dit, Mbisi et qui n'est pas aimant, ils allaient au Tiola. Bon, et on dit souvent, madame, que les femmes vont facilement là où savent qu'on peut leur donner des moyens pour que ça fasse toujours belle. Alors, les partis politiques, c'est comme ça au Congo. Et c'est donc un grand problème parce que les gens ne vont pas à l'Assemblée nationale. Les gens ne vont pas au gouvernement parce qu'ils sont chrétiens catholiques. Donc, il y a un défi que nous devons relever. Et moi, je pense que ce défi que nous devons relever doit déjà commencer dans le cadre de la formation au niveau de l'école secondaire spécialement. Parce qu'aujourd'hui, dans les écoles catholiques, on donne encore le cours de religion. Il faudrait qu'on explique déjà aux jeunes la doctrine sociale de l'Église, que beaucoup d'hommes politiques qui se disent chrétiens ne connaissent pas. Que nous, la plupart d'entre nous, nous avons découvert seulement quand nous entrons en politique, en contact avec notre aumônier dans la DEC, c'était l'abbé Loukelou, et qui nous a parlé de la doctrine sociale de l'Église, qui nous a donné les textes qu'on a commencé à lire. Ce sont des choses qu'on doit enseigner dans les écoles. Il faut dire déjà aux jeunes que la politique, c'est une vocation. C'est comme le sacerdoce, c'est comme le mariage, c'est une vocation. On peut aussi se sanctifier en faisant de la politique, si on fait les choses très bien. Thomas More, en Angleterre, qui est aujourd'hui pratiquement le patron des acteurs politiques catholiques, c'est parce qu'il voulait défendre sa foi. Il a refusé de suivre le roi. Il a été guillotiné. Donc, je pense que c'est la doctrine sociale de l'Église, c'est l'encadrement des jeunes. Et quand ils ont fini les études et qu'ils entrent dans la vie active, il faut continuer à les accompagner pour qu'ils soient à mesure de rendre service à leur pays, de ne pas seulement travailler pour eux, mais de travailler pour la communauté, pour l'intérêt général.
Voilà, merci beaucoup, Madame Régine. Une lecture riche. Et les politiques ou tout chrétien catholique qui veut se lancer donc dans ce domaine-là doit connaître la doctrine sociale de l'Église.
Tout à fait, très important, parce que je pense que c'est la base de tout, comme nous avons suivi le professeur Mokonda, qui a martelé sur cette impréparation des cadres à l'époque. Je pense que cette impréparation nous suit jusqu'à aujourd'hui et c'est une raison de plus encore dans la formation même du museau sur la jeunesse, puisque bon, nous vivons déjà, nous avons consommé 65 ans d'indépendance. Nous misons sur l'avenir des jeunes qui doivent être encadrés, cet encadrement un peu plus près encore de l'Église pour qu'on puisse rester toujours enfant des dieux et faire ce qui doit être fait.
Et nous restons donc au niveau du panel historique, on va écouter le père Maker Manimba qui nous a laissé un élément sonore. Il est recteur à l'université de Masno, il est oblat immaculé de Marie, il est historien, il va faire sa grille de lecture, 65 ans. Avant de passer donc à un autre panel, je crois que ça sera peut-être politique directement avec l'abbé Mathieu Moussoua qui est avec nous dans ce studio. Gaylor Kamango, si on est en intelligence avec vous, on peut écouter les pères Maker.
L'indépendance de notre pays, le Congo, a été proclamée le 30 juin 1960. On peut lire cela dans l'acte déclarant l'accession du Congo à l'indépendance. Les Congos accèdent ce jour, en plein accord et amitié avec la Belgique, à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Cet événement majeur a mis fin à 75 ans de colonisation belge. Et cette colonisation, comme on le sait, a commencé en 1885 pour se terminer en 1960. Du point de vue historique, la colonisation belge du Congo s'est déroulée en deux grandes phases distinctes avec des caractéristiques et des acteurs différents, mais toujours marqués par l'exploitation brutale et l'absence de droits pour les Congolais. La première phase est privée, car à l'issue de la conférence diplomatique de Berlin, Léopold II obtient de grandes puissances d'alors le territoire du Congo comme propriété personnelle sous le nom d'État indépendant du Congo. Un État sans liberté du commerce, sans liberté de travail ni liberté civile. De nombreux abus y sont dénoncés, notamment le travail forcé, l'arrestation des notables, la flagellation à la chicotte, les violences sexuelles, les mutilations des membres, les expéditions punitives, l'incendie des villages, la prise d'otages des femmes avec enfants, etc. En 1908, Face aux abus dénoncés, Léopold II est contraint de céder son Congo à la Belgique, qui transforme le territoire congolais en une colonie officielle. Et cette colonie prend le nom de Congo belge. Dans cette seconde phase officielle, la colonisation repose sur la trilogie administration, finance et mission religieuse. Sur le terrain, cependant, la charte coloniale n'a pas mis fin à la terreur inaugurée par l'État indépendant du Congo. Elle a été soutenue jusqu'en 1950 par les occupations et les opérations militaires. La hiérarchie était raciale, les infrastructures étaient développées pour soutenir l'économie belge. Entre répression et résistance est née une conscience politique à partir de 1945. On a assisté ainsi à l'émergence des mouvements syndicalistes et nationalistes. En janvier 1959, les émeutes des Léopoldville vont accélérer le processus de décolonisation. Et au cours de la conférence de la table ronde de Bruxelles, la Belgique accepte de rendre l'indépendance au Congo dans la précipitation, sans une période raisonnable de transition. Le Congo devient effectivement indépendant le jeudi 30 juin 1960. Ces jours-là, dans la salle de la Rotonde, a lieu la cérémonie de passation du pouvoir entre la Belgique et le Congo, en présence du roi de Belge Baudouin et des nouvelles autorités congolaises, Kassavubu et Lumumba. Réagissant au discours paternaliste du roi Baudouin, Lumumba, que n'attendait pas, a dénoncé les souffrances, l'oppression et les humiliations subies par les Congolais durant la colonisation. Son discours a marqué les esprits et est resté très célèbre. Dans tout le pays, ce 30 juin 1960, les gens ont fêté la fin de la colonisation. Les drapeaux belges ont été descendus et le nouveau drapeau congolais était hissé. Mais cette indépendance était fragile. Elle était arrivée trop vite, sans une préparation réelle. L'administration, l'armée et l'économie étaient encore largement contrôlées par les Belges. Peu après l'indépendance, le pays a plongé dans le chaos et l'anarchie. Mutinerie au sein de l'armée, sécession de provinces, le Katanga et le Sud Kasaï, lutte pour le pouvoir qui a conduit à l'assassinat de Patrice Lumumba le 17 janvier 1961 au Katanga. Malgré cela, le 30 juin est plus qu'une date. C'est le symbole de la liberté, de la dignité retrouvée et de l'identité congolaise. Le 30 juin est aussi un appel à l'unité, à la justice et au développement, car tous nous espérons voir un jour le pays réaliser le rêve d'une nation libre, souveraine et prospère, telle qu'elle avait imaginé le père de l'indépendance. Il va donc falloir qu'on enseigne l'importance de cette date à l'école et dans les médias pour construire et cimenter la conscience nationale.
Voilà, de retour dans ce studio Emmanuel Ferrario, siège national de Radio Maria. Vous suivez cette émission spéciale 65 ans de la RDC, de l'indépendance de la RDC, bilan et perspective, rôle des cadres et dirigeants catholiques dans ces parcours historiques. C'est le thème qui sous-tend cette émission avec autant d'invités. Madame Régine, nous revenons.
Oui, nous revenons. Nous avons donc terminé à survoler le panel historique avec le professeur Mokonda et le père Maker, qui lui a mis l'accent sur cette accession à l'indépendance de manière précipitée, sans une préparation réelle. Et je pense que ça va toujours dans le même sens avec le professeur Mokonda, lui qui a aussi parlé de ce manque de préparation de la chose publique, la res publica, par les dirigeants.
Voilà, alors on va passer donc au niveau du panel politique. Abbé Mathieu Moussoua, vous avez écouté donc le professeur Mokonda qui parlait de l'éthique dans la gestion de la chose publique. Comment vous dressez votre bilan de 60 ans, vous qui êtes un philosophe politique?
Merci beaucoup pour la question. Et je remercie les intervenants sur la question historique, l'aspect historique de notre indépendance. Ce qu'ils ont dit là, c'est vrai et c'est très instructif. Maintenant, moi je vais aborder la question de l'aspect politique et juridique. Alors je commencerai par un préalable qui est d'ordre lexicographique, donc linguistique. L'indépendance, c'est quoi? Que veut dire le mot indépendance? Mettons-nous d'accord. Bon, l'indépendance, le dictionnaire nous dira, c'est la qualité ou le caractère de ce qui est libre, ce qui n'est pas soumis à une influence, une pression, une contrainte extérieure. En politique, ce mot indépendance implique l'idée de souveraineté. On parlait de l'accession à la souveraineté internationale du Congo, que le Congo, le 30 juin 1960, devenait un État souverain, c'est-à-dire un État dont l'autorité, le gouvernement, n'est pas soumis à une contrainte extérieure. Donc tout peut se décider à partir de l'intérieur du Congo, à partir de nos propres besoins. L'idée d'indépendance implique aussi l'idée d'autodétermination. L'autodétermination, c'est la faculté de décider, de choisir son projet de société. Cette qualité-là est déterminante. La liberté apparaît ici comme le facteur premier de l'indépendance. Alors, la liberté, c'est quoi? Au plan anthropologique, nous allons dire que la liberté est une qualité innée de tout être humain. D'ailleurs, la Déclaration des droits universels des droits de l'homme dit que tous les hommes naissent libres et égaux. Mais si nous allons maintenant au plan historique et politique, nous allons remarquer que dans nos sociétés, tous les hommes ne vivent pas d'une façon égale. Il y a des différences, des clivages sociaux qui se voient dans leur vie quotidienne. Alors, au niveau politique, la liberté devient une conquête. Vous avez remarqué que, ici, on nous l'a fait remarquer, que le contre-discours de Lumumba était un discours de revendication. Parce qu'on présentait l'indépendance comme quelque chose d'évident, un acquis, et Lumumba a voulu souligner que cette indépendance, nous l'avons conquise au prix de nos sacrifices, au prix de notre combat. Donc, politiquement parlant, nous allons voir que l'indépendance, la liberté, devient une conquête. Il faut la conquérir. Alors, maintenant, à propos de contraintes extérieures, à propos de confiscation de droits des citoyens, il faut souligner ceci. Et je prends plutôt la parole d'un penseur français, Étienne de la Boétie, qui a vécu au XVIe siècle, qui a dit ceci à propos de la liberté, la conquête de la liberté, de l'indépendance. Parce qu'il faut conquérir, mais pas une fois pour toutes, mais c'est une conquête de chaque jour. Chaque jour qu'il faut conquérir cette liberté, il faut vivre en homme libre. Libérer sa conscience, c'est libérer aussi de toutes les contraintes qui vous empêchent de jouir de ce droit qui est normalement inné. Alors, cet homme, Étienne de la Boétie, dit ceci. De sa servitude, le peuple, sous un tyran, porte l'entière responsabilité, puisque sans broncher, sans maudire, sans se soulever, il accepte passivement d'obéir et de courber sous les jougs. Pour se libérer du tyran, il n'est pas nécessaire de le tuer. Il suffit de ne plus l'écouter. Il n'est alors plus rien et il s'écroule. Il veut dire que celui qui vit dans la servitude, celui qui est esclave est quelque part responsable, complice de cette situation. Parce qu'il ne se rebelle pas, il ne fait aucun effort pour secouer les jougs, pour briser les chaînes de servitude. Et pour cela, il n'est pas nécessaire d'utiliser la violence. Nous pouvons penser ici à la révolution de Gandhi en Inde. Il n'a pas levé des divisions armées pour faire face à la domination britannique et obtenir l'indépendance de l'Inde. Il a appris aux Indiens à désobéir à ceux qui leur imposaient des lois qui étaient injustes. Et c'est ce que les Indiens ont fait, la non-violence. Ils ont dit, par exemple, que nous n'allons plus acheter des tissus venant de Manchester, parce que c'est nous qui produisons le coton. Et eux, ils prennent ce coton, les transforment en tissu là-bas, ils viennent nous le revendre. Ils s'enrichissent, mais nous restons pauvres. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer à filer notre coton ici, etc. Et nous habiller avec les tissus de nos ancêtres, etc. Voilà par exemple. Nous n'allons plus acheter le sel vendu par les Anglais. Nous allons descendre nous-mêmes à la mer chercher du sel là-bas. Voilà pourquoi la liberté est à conquérir et cela signifie qu'il faut désobéir aux lois qui sont injustes. Il faut chaque jour essayer de vivre selon donc cette liberté. Alors la liberté est une condition de la paix et du bonheur. C'est le plus beau trésor que Dieu nous a donné et que nous devons protéger. Celui qui n'aime pas la liberté, qui ne protège pas sa liberté, qui ne défend pas sa liberté, je dirais, celui-là, il a péché parce qu'il n'a pas obéi à Dieu, il a obéi aux hommes, il a peur des hommes au lieu d'avoir peur donc de Dieu.
Merci, merci beaucoup. Je crois que la matière est très abondante. On reviendra encore à vous. Nous donnons la parole, on reste dans le panel politique pour poursuivre cette émission 65 ans de l'indépendance, bilan et perspective. Nous étions donc dans le panel politique avec le professeur Abbé Mathieu Moussoua, qui a mis l'accent sur une liberté qui doit se conquérir au jour le jour. Chaque jour, nous devons conquérir notre liberté. Et nous allons donc donner la parole à Monsieur Faustin Kouakoua, professeur Faustin Kouakoua, vous avez la parole.
Merci, madame. Puisque nous parlons de politique, en fait, nous avons entendu, du point de vue historique, tout ce qui a caractérisé l'homme congolais avant l'indépendance, le jour de l'indépendance et après. Puisque nous parlons aussi de l'Église et du rôle des chrétiens dans ce qui s'est passé pendant l'indépendance et la suite, je pense que nous devons mettre un peu l'accent sur la compréhension même de ce que nous appelons politique. Il y a eu des aspirations au niveau du peuple congolais à ce moment-là, avant l'indépendance. Il y a eu des attentes et il y a eu des projections au niveau des acteurs politiques comme au niveau de l'Église. Nous avons entendu ici qu'autour de l'abbé à l'époque, Malula, il y a eu un groupe de chrétiens catholiques qui se sont mis pour pouvoir réagir par rapport à la proposition de l'indépendance envisagée en 1985. Alors, maintenant, ces aspirations-là, j'aime bien le rappeler, ont été focalisées dans les textes que nous appelons l'hymne national, debout congolais. C'est fondamental. Parce que nous ne pouvons pas parler de l'indépendance du Congo sans nous référer à ces textes que moi je qualifie originel qui traduit en fait les aspirations de père de l'indépendance, de la population congolaise, qui se lance aussi, qui se jette dans le passé que l'homme congolais a connu et qui envisage un avenir. Et quand vous regardez ces textes-là, et vous voyez ce qui s'est passé le même jour, vous pouvez déjà vous poser la question, est-ce que la population qui dansait, qui jouait le 30 juin, avait-il compris d'abord le contenu de ces textes de l'hymne national, du bout congolais? Est-ce que la population était entrée dans la logique du message qui était traduit? Comprenez le sens de ces textes. Aujourd'hui, moi je me dis, voilà, le nœud du problème c'est là, j'ai dit, debout congolais, un projet de société trahi. C'est le point de départ. Un projet de société trahi. C'est réellement un projet de société qui montrait d'où partaient les Congolais, où voulaient-ils en arriver. Mais vite, nous avons entendu du point de vue historique que quelques jours seulement après la déclaration de l'indépendance, il y a eu une mutinerie. Cette mutinerie au niveau de la force républicaine, là où, là, comment on appelait ça ? Force publique, ne s'est pas limitée seulement entre militaires. Mais il y a eu aussi une réaction des militaires contre les acteurs politiques. Parce que juste un mois après qu'ils aient eu le pouvoir, ils ont multiplié leur salaire par 10. Et ce que les militaires n'ont pas accepté. Ils se sont donné des avantages que les autres n'avaient pas. Et ça a révolté les gens. C'est-à-dire que du projet contenu dans l'hymne et de la pratique sur le terrain, il y avait déjà une distance au niveau des acteurs politiques qui s'est créé. Et du côté de l'Église, en 1956, il y a le premier évêque congolais qui est nommé Monseigneur Kimbondo. Est venu d'autres évêques comme le cardinal, mais le Monseigneur Malula qui a été ordonné en 59, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a la hiérarchie locale qui commençait à être mise en place par des autochtones congolais. Alors, le travail que Monseigneur Malula, alors évêque, avait commencé avec les acteurs, disons, des chrétiens qui l'entouraient, on peut aujourd'hui se poser la question, est-ce qu'elle a-t-il continué? Ici, le professeur a relevé quelque chose qui est fondamental. Le manque d'encadrement des acteurs politiques par l'Église. Ça constituait un grand obstacle pour moi. Aujourd'hui, nous sommes encore là-dedans. Je vais vous lire ici un travail de Delville, Jean-Pierre, professeur à l'Université catholique de Louvain, qui aujourd'hui est devenu évêque de Liège. Il parle de réseaux démocrates chrétiens et appuis pontificaux. Vous avez sans doute entendu, quand surtout le pape a pris le nom de Benoît XIV, et on a, Léon XIV, on a évoqué le pape Léon XIII. Pourquoi on a évoqué le pape Léon XIII? Parce qu'il a écrit un ouvrage qui fonde justement la doctrine chrétienne de l'Église, le Rerum Novarum. Et dans cette doctrine, dans cet ouvrage, le pape Léon XIII a pris position pour défendre les pauvres contre le capitalisme montant et exagéré. Alors, aujourd'hui, la doctrine sociale de l'Église pousse en fait le chrétien à comprendre que dans ce que nous appelons évangile, il y a un projet de société. Alors, quand on met le lien entre l'évangile, la politique, on ne peut pas créer une séparation qui, malheureusement, se pratique aujourd'hui. Donc, du côté de l'Église, vous avez cette position qu'on a prise, que je qualifie de la neutralité, que l'Église est neutre, l'Église n'accompagne pas les acteurs politiques, et du côté des acteurs politiques, ils se disent la foi, c'est une chose, la politique en est une autre. Quand ils sont du côté politique, c'est le machiavélisme. Parce qu'on doit exister politiquement. Et quand ils reviennent du côté église, oui, c'est moi l'homme de foi. L'argent qu'on détourne, qu'on vole du côté politique, on peut venir en faire des dons au niveau de l'église. On se fait passer pour un bon chrétien. Et cette attitude a gangréné justement l'agir politique dès le début de l'Inde de notre indépendance. Ainsi, les aspirations qui sont reprises dans l'hymne national, qui devait orienter les actions politiques, qui devait faire en sorte que ce Congo qu'on voulait, qu'il puisse être plus beau, plus grand, uni, ça a connu beaucoup de difficultés. Le tribalisme a pris le dessus, la mauvaise gouvernance a pris le dessus, les conflits entre acteurs politiques a pris le dessus. Évidemment, le caractère de l'impréparation, on doit en parler aussi, ce n'est pas faux. Mais déjà en 1958, on commençait à avoir des premiers universitaires et qui entraient en politique. Et quand vous regardez la scène politique depuis Kassavubu, chrétien catholique, et quand Mobutu vient, chrétien catholique, entouré de chrétiens catholiques, mais la réponse de leurs actions ne correspondait pas avec l'idéal chrétien. Et cela a amené évidemment le pays à ne pas réaliser toutes les aspirations politiques attendues du côté de la population, du côté de la nation en tant que telle ou du pays en tant que tel. Et malheureusement, on est entré dans un système qui jusqu'aujourd'hui continue, je dirais moi, qui jusqu'aujourd'hui continue. Donc ici, moi j'interpelle un peu le comportement même de l'Église qui doit, en tant que mère, se réinterroger dans sa façon de pouvoir se situer politiquement. Si le pape Léon XIII a soutenu ce qu'on appelle les réseaux démocratiques et le parti chrétien au niveau européen, c'en est grâce à cet appui du Saint-Siège et à beaucoup d'acteurs parmi les prêtres qui se sont engagés en Belgique, en France, en Italie, qui avaient constitué tout un réseau pour pouvoir mettre à l'avant ces partis politiques-là. Mais ici, on dit non, l'Église est neutre. L'Église ne peut pas s'engager. Et ce discours-là, malheureusement, développé aussi par les acteurs politiques chrétiens, quand l'Église parle, ils attaquent pour dire que la politique, ce n'est pas le problème de l'Église. Mais l'Église est constituée de fils et de filles de ces pays. Elle a droit à prendre parole, à se positionner et à dire ce qu'elle peut dire en tant que actrice de la société dans laquelle nous vivons. Donc, c'est fini mes 5 minutes.
Oui, tout à fait. Vous avez même dépassé. Ça va tellement vite. Allez, donc, le Debout Congolais, un projet qui a été trahi, Madame Régine, comme on l'a dit. Alors, je voulais rappeler aussi quelque chose que le pape François a dit en son temps, n'amenez pas de l'argent sale à l'Église. La Madame Régine, on va continuer, peut-être qu'on va passer d'un panel à un autre.
On va passer au panel économique et infrastructure.
Alors, il y a Papa Simon et Papa Hyacinthe qui prend la parole en premier. Peut-être qu'on prend Papa Simon pour ses panels économico-infrastructure. Nous rappelons, chers auditeurs, que nous sommes en direct. Nous avons aussi besoin de vos préoccupations, sinon des questions. Veuillez donc nous les faire parvenir par SMS au 081-99-66-098. Jonathan Tamboué viendra donc pour lire vos questions, vos préoccupations qui vont alimenter, j'ose croire, les débats avec nos invités. Papa Simon, vous avez la parole.
Merci beaucoup. On va survoler rapidement le volet économique de la pré-indépendance. Pour nous situer à la veille de l'indépendance, la RDC était classée parmi les économies en expansion, en tout cas parmi les économies africaines les plus fortes, avec une économie assez diversifiée, une industrie manufacturière qui était pratiquement la plus puissante de l'Afrique noire. Nous vivions avec une agriculture compétitive, exportatrice, avec l'autosuffisance alimentaire. Mais après l'indépendance, on a connu au début une décennie de croissance entre 60 et 70. Mais dès les années 73, on a commencé à entrer dans la crise. Il y a eu les mesures de désorganisation, de radicalisation, où l'État s'est accaparé des biens des étrangers d'abord et ensuite des biens des Congolais. Les opérateurs économiques congolais ont été radicalisés. On a tué la confiance qui fonde l'économie. Et nous voyons, quand nous comparons avec les autres pays au monde, des pays comme le Mexique, la Corée du Sud, qui étaient pratiquement au même niveau que nous, même certains derrière nous, la Chine était plus pauvre que la RDC, l'Inde, le Mexique. Aujourd'hui, ces pays sont parmi les pays émergents. Et nous pouvons, de manière globale, constater que la crise de l'économie est aussi liée à la crise du leadership et de la gouvernance. En fait, tout tourne autour du leadership et de la gouvernance. Un leadership en déficit, qui n'a pas été en mesure de pouvoir encadrer, d'abord fonder l'État est en déliquescence dans le pays, et la gouvernance fondée sur les antivaleurs dont nous parlons. On a connu justement des comportements. Moi, j'ai toujours considéré que la crise, les défis auxquels notre pays est confronté aujourd'hui ne sont pas des défis techniques, ce sont des défis adaptatifs, des défis de comportement. C'est le comportement des acteurs au niveau, surtout, des leaders qui influent négativement sur le bon fonctionnement de l'économie. Parce que le leadership, la plus grande valeur du leadership, c'est l'exemplarité. Nous avons un problème d'exemplarité. Ce que nous prêchons, ce n'est pas ce que nous faisons. Et les gens ne suivent pas ce que nous disons, ils suivent ce que nous faisons. Quand ils voient comment les acteurs se comportent, et au plan politique et au plan économique, on ne peut pas inciter les peuples à suivre des bons exemples. Et je me réfère ici à un auteur américain, John Kotter, qui est un des grands gourous du leadership et de la conduite du changement, qui donne huit étapes pour pouvoir réussir un changement. Mais j'en prends trois. La première étape, c'est créer un sentiment d'urgence. Ce que M. l'abbé professeur Mosso a dit, le fait qu'on ne soit pas conscient de la situation de servitude, il faut créer un sentiment fort d'insatisfaction dans la population, au niveau des cadres, des dirigeants, que les gens, on ne sent pas une inquiétude par rapport à la dégradation de la situation que nous connaissons. Ici même à Kinshasa, on n'a pas l'impression quand on circule que ce pays est en guerre. Les terrasses sont bondées, les gens dansent, boivent. C'est comme on ne peut pas s'imaginer que une partie du pays est occupée. Il y a deuxième élément important, c'est la création d'une coalition directrice. Il faut une coalition, une certaine masse critique. Quand le professeur Mokonda parlait de notre présence, nous, les cadres catholiques, les dirigeants, dans les institutions, que ce soit au Parlement, au gouvernement, mais nous n'avons pas une masse critique suffisante pour pouvoir faire changer les choses. On s'y retrouve chacun seul. Parfois, vous défendez un projet, vous n'avez aucun soutien. On a parlé du soutien de l'Église, mais du soutien même entre nous-mêmes. Vous êtes dans un gouvernement, vous défendez un projet, vous n'avez pas le soutien des autres parce que chacun a ses propres intérêts. Sans cette masse critique, un minimum de coalition directrice, on a constaté que les changements, les échecs, 60% des échecs dans les processus de changement viennent de facteurs liés au leadership. Et le troisième élément, c'est le manque de vision partagée. Donc, à partir du moment où on n'a pas la même conscience de la gravité de la situation, on n'a pas un degré d'insatisfaction assumé par un grand nombre et ni une coalition directrice, on ne peut même pas avoir une vision partagée. Et ce manque de vision partagée ne nous permet pas de pouvoir créer une dynamique qui puisse, même aujourd'hui, même les mouvements syndicaux n'existent plus dans le pays. Nous, on était étudiants, on se révoltait régulièrement. On marchait jusqu'au point où Mobutu nous a enrôlés dans l'armée pour nous empêcher de ne plus réagir contre les décisions politiques. Voilà, en gros, pour ces premiers survols, je dois insister sur le fait que les leaderships et la mauvaise gouvernance sont des facteurs majeurs qui impactent négativement le fonctionnement de l'économie, qui font fuir les investisseurs. Ici, aujourd'hui, notre économie est peuplée de personnes, de nationalités qui sont dans la spéculation, dans les magouilles et qui favorisent les détournements, la corruption, parce qu'une économie qui n'est pas fondée sur des valeurs ne peut pas attirer des investisseurs sérieux.
Merci beaucoup à M. Simon Bosso. Nous passons la parole à M. Yassine Djogolo.
Merci, Maman Régine. Je commencerai en suivant ce que le professeur Mukunda a dit à l'époque de Léopold II. Pour moi, quand il a pris cet espace qu'on va appeler l'État indépendant du Congo, le pays était vierge. Ni aéroport, mais il y avait des ressources humaines et des ressources financières qu'il tenait à exploiter. Donc depuis ce temps-là, jusqu'en 1960, on a construit ce que nous avons trouvé en 1960, des ports, des villes et des routes qui facilitaient l'exploitation de la colonie. Donc on pouvait, en 1960, aller en voiture, une berline, de Léopoldville à Stanleyville. Il y avait une bonne exploitation du réseau fluvial, parce que si vous prenez la carte de notre pays, le fleuve Congo est navigable de Lualaba avec une interruption à Ubundu. On a construit le chemin de fer là où on ne pouvait pas naviguer. De Stanleyville à Léopoldville, donc de Kisangani à Kinshasa, et de Kinshasa à Matadi, on a construit un chemin de fer et pour lequel Stanley a dit que si il n'y a pas de chemin de fer, le Congo ne vaut pas un pays pour accéder à la mer. Donc une bonne administration. Léopold II, le pays était vierge, et ils ont conçu ces infrastructures qui nous ont léguées en 1960. Dans toutes les villes, Frère Simon l'a dit, il y avait même des bus électriques dans la ville. Il faut dire que Kinshasa ne comptait pas plus de 200 000 habitants à l'époque. Ceux qui ont étudié à Louvagnon, ils savent que tout étudiant était logé. Même ceux qui venaient de l'intérieur, ils recevaient même des billets pour venir. Et il y avait des réservations pour l'extension du site universitaire. Ça, c'est la situation en 1960. Donc, on peut dire, comme il l'a dit, en 1959-60, on avait un niveau supérieur à la Corée du Sud. Le chemin de fer Matadi-Kinshasa pouvait évacuer jusqu'à 2 700 000 tonnes. Aujourd'hui, vous vous renseignez, on n'est même pas à 50 000 tonnes là, alors qu'on faisait 2 750 000. Et ça donne comme résultat aujourd'hui, le chemin de fer n'existe pas, il faut passer par la voie qui elle, n'a pas été construite pour ce trafic. C'est une voie de tourisme et une voie de secours, et il y a des problèmes. Dans toutes les villes, la capacité est dépassée. Donc, je parle des infrastructures qui sont devenues dépassées, et personne n'a vu venir les changements. Quand vous êtes dans la ville de Kinshasa, le noyau de la ville, c'est le Gombe. C'était la partie blanche, il y a la commune de Kintambo, Barumbo et Kinshasa, Lingwala. Les anciens à Kinshasa appellent le Kasavu Ngiringiri Mbokaseka. Il y a 60, il y a Injili et Kinshasa. Une explosion démographique qui n'est pas maîtrisée. Donc, en matière d'infrastructure, il y a eu un recul. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas encore conscience du recul. Alors, je mettrai ça sur le terme, Mbouta Simon l'a dit, de l'organisation. Quand vous êtes dans l'organisation, vous maîtrisez les données, vous pouvez, au niveau du pays, si vous gérez le pays, affecter les ressources aux urgences. Que nous faut-il pour le moment pour que le ciment qui est produit ici au Congo central nous revienne moins cher ici à Kinshasa? Quand vous analysez le coût, la composante transport est dominante. Mais comment ne pas rendre ça compétitif? Et si vous avez les ciments, quand on dit, nous avons l'adage pour dire, dans les bâtiments, va, tout va. Dans un pays comme l'Égypte, les ciments ne dépassent pas 2 dollars. Mais nous, nous achetons le ciment à quel prix? Nous n'allons pas à l'intérieur où un sac de 50 kilos coûte 50 dollars. Donc, en matière d'infrastructure, on a régressé en termes simples. Donc, partant de la création de l'État indépendant du Congo, il n'y avait rien. Les premiers administrateurs, colonisateurs et autres, ont fait des efforts en 1960, qui ont été détruits systématiquement de 60 à 65. Il y a eu une embellie de 65 jusque vers 73. On a tout détruit et aujourd'hui, on est dépassé. Et c'est malheureux aujourd'hui, nos choix. Je ne parle pas des éléphants blancs. Quand vous allez à la Daipen, si vous comprenez ce qui a été mis là-bas et ne sert à rien, vous pouvez pleurer. Quand vous allez à Guadolite, vous visitez l'usine Coca-Cola, un investissement fou qui ne sert à rien. Ici, vous venez à la sidérurgie de Maluku, il y a un investissement qui ne sert à rien. Donc, nous avons reculé. Voilà ce que je peux dire en termes simples.
Merci beaucoup, Papa Hyacinthe Diogolo. On va peut-être passer au dernier panel socio-culturel. On va parler de l'éducation tout en signalant la présence du recteur de l'UCC, l'abbé Léonard Santédi, qu'on va accueillir. Bonjour, abbé recteur. Merci donc de nous rejoindre dans ces débats citoyens. Et nous parlons donc du rôle de l'Église catholique, de ses cadres et dirigeants 65 ans après. Et vous êtes à la tête d'une institution universitaire et catholique. Et comment vous pouvez bilanter l'éducation du Congo 65 ans après?
Merci de cette question. D'abord, aujourd'hui, on ne peut que commencer par souhaiter une belle fête de l'indépendance et formuler des vœux, des souhaits pour un avenir reluisant, flamboyant de notre pays. 65 ans, c'est le jubilé des palissandres, ce bois dur et dense qu'on utilise, reconnu pour sa beauté et sa durabilité. Donc on pourrait dire que 65 ans après l'indépendance, nous devons voir ce Congo par sa beauté, sa durabilité. Hélas, vous me permettez d'abord d'évoquer le rêve des pères de l'indépendance, notamment Lumumba, qui disait nous allons faire de ce pays le centre de rayonnement de l'Afrique. Nous allons veiller à ce que les terres de cette patrie puissent profiter réellement à ses enfants. Et il ajoutait, j'invite tous les citoyens congolais, hommes, femmes, adultes, enfants, à travailler pour une économie prospère. Alors, donc, le travail, là, moi, je vois le rôle de l'éducation. Et effectivement, aux premières heures de l'indépendance, ce pays était le centre des rayonnements. J'ai entendu mon prédécesseur parler de l'Ovanium, qui a tiré, c'est la première université catholique d'Afrique. Il y a eu déjà des universités dans les colonies françaises et anglaises, mais qui n'étaient pas des universités d'obédience catholique. Et l'Ovanium, avec Mgr Luc Gillon, et en 57, la création de la faculté de théologie qui donne à cette université sa couleur catholique, eh bien, ça a été un centre de rayonnement. Et même le niveau primaire et secondaire, le bilan de quelqu'un comme le père Ekwa, d'heureuse mémoire, les jésuites, disait vraiment, nous avons atteint jusqu'à plus de 90%, alors vraiment de scolarisation, mais aussi le budget de l'État, alors, était conséquent parce que si nous voulons une éducation de qualité, il faut, on allait jusqu'à plus de 20% dans le budget national, comme on voit dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc voilà, un premier moment d'investissement, de rayonnement de nos institutions d'éducation, et l'Église est là-dedans aussi, veiller à former l'homme dans sa double dimension, je dirais, horizontale, avoir des ingénieurs, des médecins, mais aussi dimension verticale, des valeurs, donner des valeurs. C'est pourquoi l'Ovanium dira « scientia splendet conscientia ». Donc la science qui réjaillit, mais qui brille aussi avec la conscience, selon l'adage « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et quand on va commencer la faculté de théologie qui deviendra l'Université catholique du Congo, on a pris toujours la lumière, lumen super flumen. Il faut une lumière, la lumière de la raison, mais aussi de la science, l'éthique, des valeurs. Voilà. Et donc, s'il faut dire quelque chose, donc l'Église aussi a travaillé dans ces milieux. Il faut voir les écoles primaires et secondaires. Pour Kinshasa, il faut citer, je cite Boboto, Elikia, Saint-Raphaël, Kabambaré, Motema-Picco, travailler à former l'élite des hommes et des femmes qui devaient prendre la gestion de la chose publique. Voilà, travailler, l'Église s'est investie jusqu'à ce que à peu près 50% de l'organisation de l'éducation nationale était entre les mains de l'Église catholique. Bon, voilà, on peut dire qu'on a travaillé, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de recul. 65 ans, il faut quand même faire un bilan. Le bilan n'est pas simplement un bilan comptable en disant ça, ça a marché, ça n'a pas marché, mais un bilan qui nous permettrait plutôt de faire un élan, de se projeter. Comme on dit toujours, il n'y a pas d'avenir sans souvenir. si nous nous souvenons de ces heures-là, de l'investissement, alors je voudrais aller dans le sens d'une éducation de qualité. Il y a des efforts qui se font aujourd'hui. On est descendu, à un moment donné, on est descendu jusqu'à 1% dans le budget national pour l'éducation. J'ai rencontré un ami ministre qui m'a dit, « Monsieur l'abbé, vous savez, quelqu'un qui vient de sortir du coma, on ne peut pas lui demander de courir 100 mètres plat. Donc, il faut nous donner le temps, le temps, le temps. » Mais bon, voilà. Mais quel temps? Depuis qu'il m'avait dit ça, ça fait plus de 15 ans. Mais nous ne sommes pas encore arrivés. Donc, un premier point, c'est quel est le budget que nous donnons à l'éducation pour qu'il y ait une éducation de qualité à tout niveau, maternelle, primaire, secondaire. Ensuite, quels sont nos programmes? Nos programmes, quel type d'hommes nous voulons former? On dit éduquer, c'est bâtir. Bâtir des personnalités, forger des tempéraments, donner des leviers et des piliers pour que les membres d'une communauté puissent vivre ensemble, puissent travailler, puissent espérer ensemble. Alors, éduquer, c'est forger un arsenal d'outils intellectuels, éthiques et j'ajoute spirituels pour maîtriser le monde, l'organiser et y vivre. Alors, quels sont les outils que nous, nous développons ici, dans notre pays aujourd'hui? On doit se poser la question. Éduquer, c'est raconter. Raconter des histoires, raconter même un rêve. Nous voyons comment les rêves américains ou les rêves chinois et tout cela, voilà. Quel est le rêve que nous donnons 65 ans après aujourd'hui à nos jeunes? Alors nous, nous allons avec nos collègues hein, dans les universités, nous travaillons tant bien que mal, tant soit peu, à vouloir maintenir cette flamme-là de l'intelligence. Et j'ai dit que l'éducation est le meilleur instrument à maîtriser si on veut le développement du pays. Nelson Mandela l'a dit, pour transformer une nation, il faut l'éducation. Et moi, je crois, sans éducation de qualité, l'avenir du Congo ne va pas, on n'y a pas un rayonnement. Donc, il faut remettre l'éducation, former, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, et nous aurons les résultats. Voilà. Donc, dans un premier temps, je plaide pour une éducation de qualité pour un avenir meilleur.
Merci au professeur Abbé Léonard Santédi pour votre intervention. On reste dans le panel socioculturel avec le professeur Théophile Mbemba. Vous avez la parole.
Merci beaucoup. Bon, effectivement, c'est l'heure du bilan. 65 ans après, pour voir quel est le chemin que le pays a parcouru dans le domaine socioculturel, domaine social et culturel. Et puisqu'on parle là, c'est du social, c'est la société, il est important de se faire une idée de la démographie. Parce qu'un des gros problèmes que nous avons dans ce pays, c'est que nous n'avons pas de données. Hein, tout se fait un peu de manière superficielle. Donc on ne s'est jamais donné la peine de faire un recensement sérieux, hein, à part le recensement scientifique de 1980. Comme ça, on sait comment évolue la population. Parce que finalement, le développement est fonction de l'évolution démographique d'un pays. Hein, en 1960, on était près de 15 millions. Et aujourd'hui, ça fait. On a environ 120 millions, on ne connaît même pas. C'est autour de cela. Ça fait à peu près 600% hein, de la croissance démographique. Mais comment est-ce que cette donne a été prise en compte par ceux qui ont eu à gérer les pays, à administrer les pays, le ministère de plan, etc. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important qui a manqué et qui a fait que finalement, la politique a été faite ou la gestion du pays a été faite sans réellement prise en compte la population elle-même à la base, pour savoir combien d'hommes, combien de femmes. Parce que finalement, tout se détermine en fonction de cela. Ça, c'est la première chose que je relève. La deuxième chose, c'est que, comme ça a été dit tout à l'heure, là, au niveau du panel économique, effectivement, après l'indépendance, c'est quand même une période de croissance, de 60 à 70 ans. En dépit de gros problèmes qu'on a connus avec la scène de Lumumba, mais il y avait une croissance économique. Et elle n'était pas fondée uniquement sur le minerai, non. C'est aussi l'agriculture. On voyait comment l'huile de palme partait de Bandundu, comment le coton partait de Bandundu. Donc, il y avait une intégration de tous ces secteurs de la croissance économique. Et pendant ce temps-là, pendant cette période de croissance, on parle au niveau de l'enseignement, même pas de l'éducation supérieure, mais de l'enseignement primaire et secondaire. Hein, on était heureux d'être enseignants. Les enseignants étaient des modèles. On le voyait dans des voitures Honda. Et les gens rêvaient de devenir enseignants, éduquer les autres. On a vu ça. Hein, le revenu de population était bon. Pendant cette période-là, les choses allaient. Mais comme l'a dit, le déclin a commencé, évidemment, l'année 70, avec tout ce qui s'est passé. Hein? Et au courant de cette année, là, je parlais du système éducatif, puisqu'on est dans le social. Même du point de vue sanitaire, pendant cette période-là, effectivement, il y a eu un effort de vraiment bâtir des infrastructures sanitaires, mettre au point un système sanitaire qui marche. Vous savez que notre système sanitaire, à un moment, au niveau de l'Afrique et du monde, c'était un système de référence. On s'est référé à ce qui se passait au Congo. Mais malheureusement, quand la période de déclin a commencé, effectivement, tout a dégringolé. Tout a dégringolé. Et finalement, le niveau de la corruption a commencé à gangréner la société. Les antivaleurs ont miné la société. Hein? Et conséquence de cela, c'est quoi? C'est que, effectivement, la pauvreté a pris de l'ampleur. La pauvreté a pris de l'ampleur. Donc, on peut considérer quand même que lorsqu'on parcourt ces 105 ans, on se réalise que, comme vient de le dire d'ailleurs le recteur Santé dit, hein, au niveau de l'éducation, on n'a pas poursuivi finalement ce que, il faut le dire, il faut le reconnaître, ce que les Belges avaient laissé, qui a continué jusqu'en pendant la première période de 60 à 70. Hein, parce qu'au niveau du système éducatif, à ce moment-là, effectivement, les premières universités, c'était en 54, et puis il y avait Lubumbashi hein, en 58, et puis Kisangani est arrivé en 63, je pense. Donc les universités étaient là. On a formé, puisque nous sommes acteurs politiques catholiques, et effectivement, il y a des catholiques, citoyens catholiques, qui sont passés par les écoles, qui pouvaient prendre en main les choses. Mais je le souligne encore, et ça a été dit tout à l'heure là, le leadership qui, au courant de toutes ces années, a pris en charge la gestion du pays, n'a pas intégré cette dimension importante de l'éducation. On dit, lorsqu'on veut détruire un pays, hein, détruisez le système éducatif, et au bout de 25 ans, vous aurez la majorité de la population que vous aurez seront des gens qui ne seront pas à même de réfléchir sur l'avenir de leur pays. Et la conséquence, c'est qu'ils seront dominés par les autres. Et c'est les risques que nous parcourons dans notre pays aujourd'hui. Je vais encore élever un aspect important de ce système éducatif. Aujourd'hui, le leadership n'a pas pris en compte. Il faut une politique, il faut une vision claire. Qu'est-ce qu'on veut faire? Nous sommes dans un pays riche en termes de ressources naturelles. Mais il ne suffit pas de les contempler. Il faut avoir des hommes et des femmes, des Congolais, qui soient éduqués, qui soient préparés, orientés pour transformer toutes ces richesses en valeurs réelles et qui puissent profiter à l'ensemble de la population. Et là, moi, j'ai eu toujours un peu de reconnaissance pour le président Mobutu dans les années 72. Hein, on peut tout dire de lui. Moi, j'ai terminé le secondaire. Si j'ai fait les sciences exactes, c'est grâce au président Mobutu. Parce qu'à cette époque-là, il avait poussé ceux qui avaient un certain niveau scientifique au niveau du secondaire. Hein, il suffisait que le niveau soit au-delà de 50% hein, pour les pousser d'aller dans les sections des sciences exactes, les sections de l'ingénierie, hein, etc. Et il avait accordé une bourse supplémentaire. Et ça, c'est une politique. Pourquoi il a fait cela? Pour moi, c'était stratégique. Hein, c'est une stratégie fondée sur la technologie, le développement de la technologie dans un pays, le développement de l'ingénierie dans un pays et le développement de mathématiques. Aujourd'hui, au secondaire, nos enfants fuient de faire les mathématiques. Ils trouvent que c'est difficile, etc. Mais pour un pays, c'est vraiment dangereux. Ça veut dire que on peut continuer, nous pouvons continuer, les dirigeants, les responsables peuvent continuer à faire des discours. Oui, on veut le développement, on veut. Mais en réalité, on n'avancera pas. Si on ne développe pas la technologie, si on ne développe pas l'ingénierie, si on ne pousse pas nos enfants dès le jeune âge d'adopter les mathématiques pour qu'à l'avenir, qu'il y ait suffisamment de Congolais qui puissent entrer dans ce domaine et contribuer à la transformation de nos richesses du pays, ben, les choses n'avanceront pas. Alors, je sais que vous voulez m'arrêter. Je termine par là, puisqu'on parle des acteurs politiques catholiques. Moi, je dis à ceux qui concernent les acteurs politiques catholiques, il y a eu ces universités, les premières avant l'indépendance. Mais après, bon, évidemment, l'État a récupéré, et puis bon, l'Église catholique s'est investie. Ils forment beaucoup d'élèves au primaire et au secondaire. Et quand ils terminent, ils ont une formation de qualité. Ils peuvent aller à l'université. Malheureusement, pendant longtemps, on les a déversés dans les universités. La majorité est allée dans les universités publiques. Et comme même les universités qui étaient catholiques ne l'étaient plus. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, ils sont livrés. En fait, si je pourrais appeler ça pour les abbés, avec sous leur contrôle, la passerelle d'ensemble ne se poursuit pas au niveau de l'enseignement universitaire. Conséquence, ceux qui terminent, ils terminent avec d'autres valeurs. Et quand ils arrivent dans la société, ils adoptent d'autres valeurs. Et donc, ça aussi, c'est un gros problème. Mais Dieu merci que l'Église catholique a compris ça au niveau des différents diocèses de la CENCO, d'avoir nos universités. Et nous pourrons espérer qu'au fil des années à venir, avec les générations futures, nous aurons un seuil critique de jeunes qui auront été formés suivant les valeurs chrétiennes pour réellement, là où ils travaillent, ils aient la conscience aussi de travailler en tant que chrétien catholique.
Merci beaucoup, professeur Théophile Mbemba. Nous rappelons que nous sommes toujours dans cette émission en direct du studio Emmanuel Ferrario.